Jedi.
Et le pour ça. Et le Soliton.
Oui, il faut m'appeler Soliton. Moi, je suis un anon. J'espère rester anon. Comment tu vas? Comment tu vas cette semaine? Semaine intéressante?
Semaine intense, beaucoup de sport, donc j'ai un peu mal partout, surtout avec mon programme, mon fameux programme Knees Over Toes. Et en plus, il fait bon, donc ça, j'aimerais bien aller un peu à l'extérieur, près des Champs de Mars, mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de cool à faire et donc beaucoup de taf, donc je peux pas. Mais sinon, et d'ailleurs, avec tout ce temps, je t'avais envoyé un message parce que je me disais que ça aurait été chouette qu'on ait fait une petite randonnée un week-end. Avec un petit bivouac en pleine nature près de Paris. D'ailleurs, si vous avez des coins chouettes à nous recommander où on peut faire un feu sécurisé et sans problème et faire une petite escapade en tente, n'hésitez pas à nous envoyer un message.
Ouais, envoyez-nous des messages. On cherche un endroit où on peut partir pendant deux nuits ou au moins une nuit, je dirais maximum deux nuits, et où on peut se sentir vraiment dépaysé. On avait fait ça l'année passée en Belgique, dans les Ardennes. C'était vraiment super. Et c'est un moment qu'on kiffe tous les deux parce que c'est un moment, en gros, il n'y a pas d'ordi, pas de portable. Alors oui, on parle de crypto, oui, on parle de NFT, oui, on parle au bout de deux bières, de sujets encore plus intéressants que ça. Et on aime bien ce côté un petit peu manly de se retrouver autour du feu, de regarder les bûches se consumer et d'aller dormir, d'avoir un peu froid, etc. On avait fait ça avec plusieurs potes et on va refaire ça cette année dès qu'il fait un peu plus chaud peut-être. Bah écoute, tu parlais de call. Moi, j'ai eu des calls aussi très intéressants cette semaine. En gros, je creuse pas mal l'industrie du play to earn pour ceux qui n'ont pas encore compris. Cette semaine, j'ai eu des calls avec trois mecs dans le play to earn. Qui en gros, il y en a un dont je parlerai pas parce que le projet est vraiment vraiment cool et je veux garder l'alpha pour moi pour le moment, mais il y en a deux autres qui en gros avaient des studios de jeux web 2, donc des jeux mobiles free to play, et ils ont fait la transition vers du web 3 play to earn. Et c'est des transitions, vous pouvez imaginer, qui sont pas faciles à faire quand tu es le dirigeant d'une boîte et que tu dois décider de réinventer ton business model et de partir sur un autre sujet. Après, il y en a un qui m'a expliqué qu'en gros, il avait deux tiers de son équipe qui était sur du free-to-play, un tiers de son équipe qui était sur du play-to-earn l'année passée, et que les retours sur investissement étaient tellement intéressants en play-to-earn que désormais, c'est l'inverse. C'est deux tiers de son équipe sur le play-to-earn et seulement un tiers sur le free-to-play dans la maintenance. Quoi.
Les gens qui sont sur le play-to-earn, ils font quoi?
Il y a tout le game design, il y a blockchain, il y a tout ce qui est Unity... développer le jeu, quoi, concrètement. Et en gros, il fait des partnerships, lui, avec notamment Animoca. Et il me disait, en fait, Animoca, c'est un super bon deal. Ils font un revenue split. Animoca finance le jeu.
Okay.
Donc, finance la création du jeu. Eux lancent le code, le développent, le lancent. Animoca fait le marketing, gère tout ce qui est blockchain, c'est-à-dire token, NFT, minting, etc. Et puis derrière, ils font du revenue share sur les ressources, enfin l'argent, le revenu que le jeu génère. Ils en ont lancé deux comme ça, et là ils sont en train de partir en Indé sur un troisième. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, en gros, il y a pas mal de studios qui sont très établis dans le free to play, qui commencent à changer et qui prennent pas le truc à demi-mesure. Ils vont jusqu'au bout. Et j'ai eu un call avec un Canadien qui était à l'autre bout du monde, du coup au Canada, qui ont genre 24 heures avant le call, ils avaient fait leur premier minting, ils ont quasiment sold out, ça a généré quasiment 2 millions de dollars en 24 heures, ils ont fait une Dutch auction, etc. Et tu voyais tout le gars, il me disait, en fait, ce qu'on est en train de vivre là, d'un point de vue organisation en interne dans un studio, globalement, c'est exactement la même chose que quand on est passé du modèle pay to play, donc avec des licences, à un modèle free to play. Les devs étaient contre, on pensait que ça allait amener énormément de friction sur le marché parce que du coup, on allait avoir tendance à développer des mauvais jeux et à mettre des pubs dedans, etc. Et en fait, finalement, pas du tout. Enfin, il y en a qui sont partis sur ce modèle-là, mais ce n'était pas les plus intéressants. Les plus intéressants, ils ont réussi à développer des vrais free to play, un peu à la Fortnite d'ailleurs. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est intéressant et à suivre. Et bref, le premier call que j'ai eu dans la semaine avec un type super intéressant, je ne vais pas parler du call, mais je vais parler d'une anecdote que j'ai vécue en direct. Donc, j'étais en call avec lui, il y avait un technicien qui était à la maison pour checker si l'appart était en ordre d'un point de vue électrique, etc. Et tu vois, il chipotait partout un peu dans l'appart. Et il m'entendait dans le call parler de NFT, de play to earn, etc. Tu vois. Puis à la fin, enfin, il me dit, bon, bah, j'y vais, excusez-moi de vous déranger, etc. Et je dis, oui, merci, voilà la sortie. Il me dit, mais j'ai entendu que vous parliez de NFT, ça m'intéresse, moi j'en ai aussi, etc. Le mec, il avait plus de 40 ans. Et tu vois qu'il était avec des étoiles dans les yeux. Et qui m'a dit, vous avez une communauté, du coup, c'est quoi le nom de ça? J'ai dit, communauté seulement sur NFT application, en gros. Mais je trouvais ça génial de voir un mec de 40 ans qui,
Il
tu
a
voyais
parlé
que
du
ça
podcast ou
l'animait.
pas?
Oui, je lui ai dit, alors voilà le nom du podcast, j'ai mis
Bon,
Farnsworth
il
sur un
serait en
papier.
commentaire. Il serait en commentaire. Si tu te retrouves en
Alors,
commentaire, bonjour à toi.
monsieur, si vous êtes dans les commentaires, mettez un commentaire, ça nous fera très plaisir. Mais en tout cas, c'est cool de voir des gens qui, enfin des gens. Enfin, il n'y a pas que les Crypto Boys et les NFT Boys qui sont là-dedans. Il y a aussi des monsieur et madame tout le monde, finalement, qui commencent à rentrer par la petite porte et qui ont l'air de vraiment kiffer le truc. Donc voilà, j'espère pour lui, j'espère pour ces gens-là qu'ils ne se font pas avoir, parce que forcément, il y a des scams partout. Mais c'est intéressant de voir ça d'un point de vue démographique. C'est intéressant. Mais voilà, tu veux commencer par un sujet?
Alors, j'avais un sujet, j'ai un petit sujet auquel je veux parler. Il y avait un autre sujet qui vient de me sauter à l'esprit. Je sais pas si je pourrais en parler, enfin, si je peux en parler, mais est-ce que ça, c'est une anecdote? Est-ce que ça fera sens? Et est-ce que. Ouais, ok. Je vais en parler. Il y a un projet que je t'ai envoyé qui s'appelle Praxis Society. Je ne sais
Ouais,
pas si tu as le temps de regarder un peu le truc ou pas.
j'ai regardé. Ça a l'air cool.
OK. Alors, Praxis Society, c'est quoi? Pour vous faire le pitch, en gros, c'est un groupe de personnes, c'est des fondateurs, avec un CEO leader qui est quand même un peu le mec le plus charismatique de la bande et qui est là pour. C'est un peu le Elon Musk de la bande. Qui a pour vocation de recréer un État. Et pour recréer cet État, il veut commencer par créer une ville. Et c'est assez dingue. Et en fait, il veut créer une ville from scratch, de zéro, avec des lois spécifiques, une architecture spécifique, un système de santé spécifique, une économie spécifique et des citoyens bien spécifiques. Et pour démarrer une ville, il a essayé de théoriser de comment les villes naissent et comment les villes se créent. Et du coup, il s'est entouré de gens brillants. Quand tu regardes sa team, c'est vraiment de l'élite des États-Unis. Alors pour le coup, c'est vraiment à chaque fois qu'il parle de sa vision, de ce qu'il veut créer, il prend toujours comme exemple l'arrivée des futurs citoyens sur les États-Unis
Colombe,
et
ouais.
ouais, exactement des colons et comment les colons ont réussi à s'approprier cette terre qui est la terre des États-Unis et qu'est-ce qu'ils ont réussi de faire à faire dessus. Et en fait, la vision zéro de ça, c'est une communauté avant tout. Et donc, c'est un Discord avec des gens qui peuvent rejoindre, des channels spécifiques sur les plus différentes thématiques que tu pourrais avoir quand tu crées une ville, économie, politique, santé, etc. Et quand même un fil rouge sur vers où on veut aller en termes de santé, en termes d'économie, en termes d'architecture. Par exemple, c'est des grands amateurs de l'architecture romaine et grecque. Il y a et j'adore parce qu'en fait, il y a un channel qui s'appelle Aesthetics et c'est la communauté qui ne partage que des trucs architecturaux qui suivent une certaine esthétique. Et c'est une certaine esthétique, c'est par exemple Milan, c'est la Rome ancienne, c'est des parcs dans Paris, c'est vraiment, tu vois, et du coup, ils donnent ça en termes d'inspiration. Alors, la team de Praxis en interne, elle a des architectes, elle a des hommes politiques, des anciens politiques apparemment connus aux États-Unis, elle a des économistes, elle est vraiment super bien composée, et en tout cas, pour un début, elle a levé beaucoup d'argent. Ils ont levé un paquet de thunes. Vu que c'est un peu improvisé, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais ils ont levé un paquet de thunes. Et en gros, ce qui est intéressant, j'ai eu un call avec eux, et ce qui est intéressant, c'est que leur V1, leur V0, du coup, c'est une communauté. Et en fait, ils font gagner des points dans la communauté pour pouvoir prétendre devenir citoyen. Pour gagner ces points, il faut faire des to-do. Et les to-do, elles tournent toutes les X semaines. Et par exemple, les to-do du moment, c'est faire du sport, pieds nus, dans un espace vert, à l'aube. Si tu fais ça, que tu te filmes en train de le faire, tu gagnes un point, tu gagnes un praxis, une espèce d'un token.
C'est une ville ou une secte qui veut le lancer?
Mais quand tu dis ça, j'invite tout le monde à lire leur
Ouais,
mirror, vraiment,
je
parce que quand
comprends.
tu lis le truc, c'est une secte, le bordel. Mais en fait, je pense qu'il faut commencer par une secte. Je veux dire, il faut, sans le côté négatif de la secte, mais il faut commencer par une secte. En fait, c'est quoi? C'est un petit club de gens qui ont des valeurs communes, qui vont vers une direction, et ces valeurs communes, elles sont très fortes et elles peuvent s'opposer à d'autres communautés. Et du coup, bah, tu prends des partis pris, tu es très polarisant et tu essaies d'aller vers cette direction, et la communauté commence à grossir, grossir. Et puis, je ne connais pas toutes les étapes de comment on crée une ville, mais je pense que ça doit démarrer par ça, tu vois. Et par exemple, ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire une vidéo pieds nus dans un espace vert en train de faire un workout à l'aube, ben par exemple, ça relate de certaines valeurs qu'ils ont. C'est que le sport, c'est très important. Ils veulent que tous leurs citoyens fassent du sport. Ils veulent qu'ils le fassent très tôt pour profiter de la journée. Je ne vais pas dire que c'est des Miracle Morning Boys, mais ça doit certainement y être lié. Avec la nature, parce que c'est important de faire ça, machin truc, en harmonie avec la nature, machin truc, machin truc. Et ça, c'est un point, tu gagnes un point. Puis il y a d'autres trucs, tu vois, qui te permettent de gagner d'autres points. Et donc, plus tu cumules des points, plus tu as de chances d'être potentiellement un citoyen. Pour être un citoyen, il faut que tu passes une apply. Et en fait, cette apply, c'est un Zoom call avec eux, avec un membre de leur équipe, qui, pendant 10 minutes, te pose des questions, tu réponds au tac au tac. Et à la fin, il dit, OK, lui, il peut être citoyen, il ne peut pas être citoyen. J'ai passé un petit entretien avec eux pour essayer d'être citoyen. Je pense que j'ai sauté, enfin, je n'ai pas eu de news, mais je pense que c'est mort. Et c'est des questions très, pas très compliquées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de questions piège ou des choses. C'est vraiment, ils te demandent d'expliquer ta réflexion sur un sujet qui te présente. Et par exemple, une question qu'il pose, alors tu vois, je ne l'ai pas sous les yeux là, comme ça, j'essaie de retrouver ce que je t'ai envoyé. Je ne sais pas si tu te souviens du nom de l'outil.
Ouais.
C'était quoi? Tu te souviens de ce nom-là ou pas?
C'est sur
Attends,
WhatsApp,
je
attends.
vais essayer très rapidement de retrouver le truc.
C'est là qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup trop sur WhatsApp.
Sans trop de perdre de temps. Mais en gros, il y a un objet qui est. Ah voilà, je l'ai. Voilà, il m'a parlé, donc il m'a dit, est-ce que tu sais ce qu'est le anticipateur? Attends, la machine d'anticipateur. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, mais je suis pas sûr. Je lui dis non. Il m'a expliqué, en gros, apparemment, c'était un objet que je ne sais plus si c'est les Grecs ou les Incas, tu vois, je n'ai pas fait mon travail,
C'est
je n'ai pas
le
fait
premier
l'exercice.
calculateur analogique antique permettant de
Voilà.
calculer des positions astronomiques. Tu vois, je le savais.
Voilà, ouais, évidemment. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu connais ça? Je fais non. Alors il me l'explique. Et il m'a dit, en gros, c'est quelque chose de fabuleux, c'est un objet fabuleux que qu'ils avaient dans la Grèce antique, et en fait, qui aurait pu, qui a été game changer apparemment dans l'histoire du progrès, de l'évolution et de l'innovation dans ce monde. C'était genre une pierre angulaire dans l'évolution de la technologie, c'est ça? Une pierre angulaire dans l'évolution de la technologie. Et elle n'a pas été estimée, elle n'a pas été utilisée à son plein potentiel. Et du coup, il y a des historiens, des scientifiques qui ont fait des estimations que si cet objet avait été utilisé à son plein potentiel, on serait genre ça l'exponentiel au niveau de l'innovation aurait pu être incroyable à ce moment-là. Donc imagine aujourd'hui où est-ce qu'on en serait, tu vois. Et du coup, il me dit, quelle est pour toi la machine d'anticitaire d'aujourd'hui? Tu vois, donc ça comme ça, et tac au tac, t'as 10 minutes, tu vois. Et je veux dire quelque chose, c'est la personne en face de moi que je ne citerai pas parce que, bon, on ne sait jamais. Je pense que la core team, tu vois, ils font passer un QI dans la core team parce que tu sentais que c'était du high QI, tu vois. C'était vraiment le mec, mais genre, le genre de high QI très particulier. quand tu parles avec la personne, tu as l'impression que les yeux sont vides et il n'y a que de l'intellect qui réfléchit, tu vois. Mais soit. Et du coup, il y avait une autre question qui était très intéressante, c'est est-ce que tu es positif, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Immédiatement, j'ai dit positif, il me dit pourquoi? Et du coup, là, tu vas t'essayer d'expliquer pourquoi tu penses pourquoi tu es optimiste pour l'avenir, tu vois. Bon, ça, c'est pas très compliqué à répondre. Julien, tu essaies d'être
Ça
le
en
plus honnête
anglais.
possible, tu vois. Tout ça en anglais. Mais voilà, ça a duré 10 minutes, puis j'aurai les news. Et en gros, si j'ai les news, je peux passer à l'étape suivante, c'est de devenir membre, et du coup, pas citoyen, mais membre. Et donc, quand tu es membre, tu dois faire encore plus de tasks, etc., pour potentiellement un jour être citoyen. Et du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, OK, mais c'est quoi la next step de Praxis? Il dit, je lui ai dit, je suppose que vous voulez à un moment donné rendre ça physique. Il m'a dit, évidemment. Et il dit, on est en train d'acheter des énormes lopins de terre aux États-Unis. Et il m'a pas donné plus d'infos, enfin, pour ne pas faire fuiter trop d'infos. Mais il m'a dit, ça se passe très bien et normalement, ça sera closé dans les mois qui suivent. Et donc, ils veulent faire une vraie ville, quoi, avec toute une suite. Voilà. C'est trop drôle, dans les investisseurs, tu as Shane de My First Million, dans les Angels. Et tu as d'autres mecs assez ouf, Balaji, évidemment. Balaji est dedans et d'autres mecs assez ouf. Et dans les fonds aussi, vous avez le top tier des fonds que vous pouvez avoir. Et le CEO a un podcast. Donc, il y a le podcast de Praxis où le CEO est interviewé. Il y a aussi le CEO qui a été interviewé pendant tout le Covid sur d'autres podcasts où à chaque fois, il pitchait Praxis et pitchait sa vision.
Ah, ça fait longtemps que ça existe alors. J'ai pas
Ça
suivi.
fait un an et demi, plus ou moins, ouais.
OK.
Mais le fondateur, le CEO, lui, ça fait un bout de temps qu'il veut créer un nouvel État et il veut créer une ville. Et ça fait longtemps qu'il s'entoure de gens pour se dire, OK, quand est-ce qu'on va le faire, tu vois. Suivez ce truc, lisez leur site, lisez leur Mirror, écoutez peut-être un podcast du CEO. Vous allez voir ce que je vous dis quand je pense que les mecs, c'est tous des IQ. IQ, ça ne veut pas dire. C'est pas. Je ne sais pas expliquer ce que je veux expliquer, mais ce que je veux expliquer, c'est que
C'est pas le
c'est pas un
panacée de
compliment.
l'intelligence.
Oui, mais c'est
Pas
surtout pas
forcément.
forcément un compliment non plus, comme c'est pas une critique, c'est juste un constat. C'est pas parce que le mec est IQ que je suis qu'on est qu'on est
Parle pour
qu'on
toi, mon
est
gars.
non 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 mais non mais qu'on
Non,
est
je rigole. Non,
fasciné, c'est
je
ça que je veux
vois.
dire, tu vois.
Ouais.
C'est parce que IQ, ça a tous les désavantages qui vont avec, et c'est ça le truc. Mais vous verrez ce que j'entends quand je dis ça. Et bon, voilà, je voulais juste parler de Praxis. Donc ça, c'était anecdote. Et puis, je peux te parler d'une boîte, si tu veux, par contre, ou
Attends,
là,
je vais
allez.
enchaîner parce que ça s'enchaîne parfaitement avec ce dont je voulais parler
Vas-y.
aujourd'hui. Je voulais parler de Ray Dalio, qui a sorti
Ah
une
ouais.
vidéo récemment, que j'ai envoyée à tous les gens, autour de moi. Je vais parler de Ray Dalio et de l'Ordre de Malte. Donc, d'abord, un peu de contexte. Ray Dalio, qui c'est un hedge fund manager. Le nom de son hedge fund, c'est Bridgewater Associates. Il a 1 500 employés dans sa boîte et il a 140 milliards sous gestion en 2021. C'est quoi leur pitch? C'est quoi un hedge fund? En fait, c'est qu'ils font de l'allocation par rapport au risque plutôt que par rapport à des assets. Donc, ce qui est presque l'inverse de la mission de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Par exemple, Berkshire Hathaway va se dire, OK, Apple, il y a des dividendes, ils sont bénéficiaires, on va donc investir chez Apple, tandis que Bridgewater et donc Ray Dalio, ils vont plutôt réfléchir, OK, d'accord, si tel événement se produit dans le monde, comment est-ce qu'on fait pour gagner, sur quelle bête on doit parier pour gagner dans ce scénario-là. Grosso modo, c'est à peu près ça sa philosophie. Et Ray Dalio, du coup, il écrit, et si jamais ça se réalise, en fait, ils font un jackpot, tandis que Berkshire fait pas de jackpot tous les 10 ans, tu vois. Donc, dans un monde qui est changeant et dont les paradigmes sont bouleversés très régulièrement, c'est intéressant d'avoir ce genre d'approche. Et donc, ça fait plus de 40 ans qu'il fait ça, le gars. Et le succès de sa boîte est phénoménal. Et en parallèle de ça, il écrit des livres qui expliquent en gros sa philosophie d'investissement. Il a écrit un livre qui s'appelle Principal, où il parle en gros de l'investissement et comment il l'a fait. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Changing World Orders. En gros, c'est une analyse historique des grands changements d'ordre dans le monde. Et grosso modo, la philosophie, enfin l'utilité du livre, c'est de dire, OK, quand un système dominant commence à s'essouffler, un autre système qui n'est pas encore dominant, mais qui est en ascension, en fait, se révèle. Et au moment où ces deux courbes, donc la descente, le déclin et l'ascension, se croisent, en général, il y a du grabuge, il y a un conflit. Il crée énormément, Redalio, de contenu sur sa chaîne YouTube. Et là, il a sorti une vidéo absolument magistrale où il explique, en gros, la rétrospective historique au cours des 500 dernières années, des grands changements d'ordre dominant qu'il y a eu dans ce monde. Et pour ça, il analyse la Chine impériale, la Chine communiste, les Pays-Bas, les Royaumes-Unis et l'Empire des USA. Et donc, en gros, ce qu'il fait, c'est que pour chaque empire, il y a 8 ou 9 variables qui moyennisent, enfin, dont il fait une moyenne, et qui ensuite il assemble. Et tout ça, ça donne des courbes sinusoïdales, pardon. Et grosso modo, ces variables, c'est l'éducation, l'innovation, la technologie, la compétitivité, la production, l'échange, la force militaire, la financiarisation et le statut de réserve de la monnaie de l'empire. Donc, par exemple, aujourd'hui, la monnaie de réserve, c'est le dollar. Toutes les autres, la majorité des transactions internationales se font en dollars et pas en euros ou en yens, etc. Donc, son analyse à la fin, et j'invite tout le monde vraiment à aller voir cette vidéo qui dure 40 minutes et qui fait une intro de son livre, en gros, il montre que selon les variables en cours, on voit que les États-Unis sont dans un déclin, et on a tous entendu parler d'histoire d'éducation, de compétitivité, de centre des finances qui commence un petit peu à se disperser sur le globe, au dollar qui est de plus en plus critiqué comme réserve, et notamment au vu des événements récents avec la Russie, comme réserve de monnaie pour les autres États, etc. Donc il y a un déclin des US et il y a une montée en puissance d'un empire millénaire qui s'appelle la Chine. Et en fait, ce n'est pas encore sûr que les États-Unis sont en vrai déclin, qui vont vraiment arriver à la fin, les États-Unis et l'Occident, grosso modo. Et ce n'est pas encore sûr que la Chine va en profiter pour commencer son ascension, mais grosso modo, ce qu'on doit garder en tête, c'est que pendant ce recoupement entre les deux courbes, il y a une période vraiment, vraiment grise qui est souvent propice aux conflits. Alors les conflits ne sont pas forcément toujours armés, mais dans l'histoire, et quand il fait l'analyse entre la Chine impériale, les Pays-Bas, les Royaumes-Unis, US, etc., à chaque fois, il y a eu des gros conflits qui étaient la plupart du temps armés. Lors de ces changements d'ordre du coup mondial. Mais il y a un truc dont il parle pas dans sa vidéo, je sais pas s'il en parle dans le livre, c'est mais quid de la crypto? Alors je vais faire une petite aparté crypto et puis ensuite on pourra continuer avec le reste du podcast. Mais grosso modo, la crypto, le Web3, la DeFi, etc. En gros, la cybéréconomie, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de colonne vertébrale d'un système nerveux mondial accessible partout, par tout le monde et qui est de plus en plus souverain. Alors, je sais bien, par exemple, dans Praxis, ils parlent de l'individu souverain. Plusieurs fois, ils en font mention dans le blog post. En gros, une des thèses de l'individu souverain, c'est de dire que quand les business et donc les organisations sociales qui créent de la valeur étaient des unités de production physique, des usines, des ateliers, etc., mais ils ne pouvaient pas être souverains dans leurs décisions puisqu'ils étaient forcément ancrés sur un territoire qui était propice en fait à la réglementation ou bien alors à l'usage de la force. À tout moment, une autorité ou un chef de guerre pouvait venir et s'approprier les unités de production par la force. Donc, il n'était par définition pas souverain. Mais avec le virtuel, c'est très très difficile et c'est pour ça que la crypto, la DeFi, le Bitcoin, la décentralisation, tout ça, pour moi, c'est un signe de souveraineté ou en tout cas de On est de plus en plus libre de s'organiser tel qu'on veut et de créer des systèmes qui sont de moins en moins attaquables de l'extérieur. Et donc l'indice de souveraineté, finalement, pour tout ce qui est Web3, ne fait qu'augmenter. Et on en revient à cette conclusion qui est donnée par Banaji. Finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Tu as ce qu'on appelle le woke capitalisme. Donc c'est le capitalisme occidental, celui qui actuellement ferme des McDonald's en Russie, celui qui fait des sanctions et qui empêche les transactions par réseau bancaire Visa, etc. Ça, c'est les gens qui utilisent le capitalisme pour véhiculer des valeurs. Et après, chacun est finalement maître de choisir si on aime ou si on n'aime pas ses valeurs. Donc ça, c'est les États-Unis et l'Occident. Le combat, il se fait contre le capitalisme autoritaire. Et le capitalisme autoritaire, aujourd'hui, il est représenté majoritairement par ce qu'on appelle les pays non alignés, donc les BRIC. Donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ils ont une vision du capitalisme beaucoup plus étatique et beaucoup plus restreinte. Et grosso modo, je sais plus qui, je pense que c'est Deng Xiaoping qui disait on s'en fout que ce soit un chat ou autre chose tant que la souris est attrapée. Grosso modo, c'est ils prennent le capitalisme occidental, ils en font un méli-mélo, ils le réapproprient à leur culture, leur façon d'être, leur organisation sociale. Et l'organisation sociale, elle est vachement plus autoritaire que la nôtre. Et la troisième voie qui est suggérée par Balaji, c'est celle du crypto-capitalisme. C'est ce que nous, on voit, on construit, c'est ce à quoi on participe aussi. Et moi, je voudrais mettre une petite note de bas de page par rapport à ce crypto-capitalisme, c'est que même si on ne parvient pas à devenir une troisième voie viable pour l'ensemble de la planète, même si on est condamné à rester online et pas à réussir à faire des praxis, etc. En fait, il y a peut-être autre chose, on pourrait devenir l'équivalent de l'ordre de Malte. Et du coup, l'ordre de Malte, je ne sais pas si tu connais, c'est un ordre qui a été créé pendant le Moyen Âge, où grosso modo, c'est une souveraineté, non pas nationale, mais qu'ils appellent fonctionnelle. Donc ils ont un drapeau, ils ont des relations diplomatiques avec d'autres États, ils n'ont pas de territoire, mais ils ont un passeport, et ils ont une liberté et une fiscalité qui leur est propre. Et donc en gros, c'est un centre de financement qui est en dehors des zones, un peu comme le Vatican, un peu comme l'ordre des Templiers à l'époque des chevaliers, machin, machin, du Moyen Âge. Et grosso modo, c'est des espèces d'organisations, juridiques qui sont complètement en dehors du système, mais qui participent au système avec tous les avantages du système. Et pour moi, ça, c'est peut-être une voie. Disons que soit la crypto disparaît et on vit tous, si on caricature, dans une dictature à la fin, soit la crypto survit et devient de type ordre de Malte, donc une organisation para-étatique. Qui est présente partout dans le monde, qui est mondiale, dont les tentacules se déploient partout, qui peut servir d'outil financier, entre autres, ou bien alors, vraiment, à la Balaji, le crypto-capitalisme devient une troisième voie viable pour tout le monde. Et donc voilà, j'insiste, tout le monde, allez voir cette vidéo de Redalio, vous allez comprendre le monde dans lequel on vit. C'est même un petit peu trop parfait. Enfin, sa vision est même un petit peu trop parfaite. Tu vois vraiment les sinusoïdes qui se recoupent presque parfaitement et ça. Alors tout ça est moyennisé, etc. Donc il y a un peu de magie derrière tout ça. Mais je trouvais ça très intéressant cette façon de voir le monde. Et Ray Dalio, il a été très fort critiqué parce que grosso modo, il est plutôt amical par rapport à la Chine et le woke capitalisme américain n'aime pas trop ça. Et il est amical dans le sens où il dit que le gouvernement chinois est un peu comme un parent un peu strict qui surveille ses enfants. Et c'était une façon de justifier en fait l'intervention de l'État chinois dans l'économie qui est très poussée. On a vu des CEO disparaître, on a vu des boîtes fermées, enfin, voilà. On a vu des personnalités publiques avec des responsabilités publiques. Et des mandats s'approprier des ressources privées, etc. Enfin bref, tous les défauts qu'on peut imaginer dans ce genre de pays. Ray Dalio aurait un petit peu justifié ça en disant que c'était juste un parent strict. Mais c'est très difficile, je trouve, pour un Européen occidental comme nous, comme moi, de se défaire de notre vision du monde. Tu vois, peut-être en effet que c'est un modèle qui mérite d'exister et qu'il ne faut pas forcément essayer d'imposer notre façon de voir les choses partout dans le monde. Et donc voilà, c'était, je trouve que ça rejoignait vraiment bien Praxis. Ça pourrait. Voilà. Moi, je vais postuler à Praxis d'ailleurs. Je pense que
Allez,
là,
mais
tu
maintenant
m'as pris
t'as
dans
les questions, donc c'est là vous postulez tous et vous passez tous, pas moi.
le. Je suppose que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, c'est.
J'en sais, I don't know. Bah, si tu
Je te
rejoins,
dirai. Ouais.
tu nous feras des récaps par ici.
Ok.
Cool. Bah, moi, je peux peut-être te parler de mon business. C'est une boîte qui vient de lever de l'argent, qui s'appelle, tu l'as peut-être vu passer, je ne sais pas, Curate DAO, ça te dit un truc? Ok. C'est Curate DAO avec un K. Curate.xyz. Curate DAO vient de lever 6,8 millions de dollars avec, je crois que c'est Polychain, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et en fait, leur tagline et leur vision, c'est Curate to Earn. Donc, vous connaissez Play to Earn. Là, c'est Curate to Earn. Donc, si vous faites un parallèle, c'est quoi? C'est essayer de prendre des gens, de leur permettre de faire de la curation de contenu et de gagner de l'argent en faisant de la curation de contenu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Curate DAO permet à n'importe qui de proposer la création d'une base de données. Ce n'importe qui propose la création d'une base de données va s'appeler un curator, donc curateur, ça se dit en français? Un curateur?
Un curateur,
Ouais,
ouais.
un curateur. Ce curateur va définir des règles pour sa base de données et des objectifs de pourquoi cette base de données, il veut la créer. Ensuite, et je vais vous donner un exemple concret comme ça, vous voyez, parce que je peux comprendre que c'est un peu bizarre dit comme ça théoriquement. Ensuite, vous avez un deuxième acteur qui s'appelle le scout. Le scout, c'est la personne qui va essayer de rentrer des informations dans la base de données et qui va être rétribuée pour le fait de rentrer des informations dans la base de données. Vous avez un troisième acteur qui s'appelle le viewer. Donc, le viewer, c'est le consommateur final, c'est l'utilisateur final qui, lui, va payer pour avoir accès à la base de données ou alors va regarder des ads dans la base de données et va être bah, simplement le consommateur de cette base de données et il va, du coup, sortir de l'argent de sa poche d'une façon ou d'une autre. Cet argent va être redistribué au scout et au curateur à la fin. Donc, il y a un token qui est au milieu de tout ça qui redistribue tout ça. Vous allez me dire, ok, ça c'est théorique, mais donne-nous un exemple. Je vais donner un exemple très très simple. Demain, ce Liton, il veut créer une base de données des meilleurs restaurants de Paris. Il dit sur CuratedDAO, il fait une proposition, je veux créer la database des meilleurs restaurants de Paris. La condition, c'est qu'il faut que les restaurants soient XYZ, en termes de qualité, de paramètres, n'importe quoi. Et l'objectif, ça va être de faire payer cette base de l'accès à cette base de données à, je sais pas moi, à des touristes fortunés qui veulent payer une base de données pour avoir la meilleure base de données des meilleurs restaurants de Paris. Derrière, tu as des scouts qui vont essayer de trouver les meilleurs restaurants de Paris, les proposer pour les faire entrer dans la DB. Vous avez un quatrième acteur dont je n'ai pas parlé, qui est un peu un espèce de vérificateur qui va vérifier si la donnée, c'est pas un spam, genre s'il n'y a pas un million de scouts qui utilisent des bots juste pour faire rentrer de la donnée en boucle. Il va vérifier bah, si c'est bel et bien la bonne donnée ou pas. Alors tout ça, la vérification, etc., se fait à travers un token et des systèmes de staking et ainsi de suite. Vous irez voir leur documentation, c'est assez un peu technique, mais bon, c'est pas trop non plus. Derrière, si ce quelqu'un l'utilise, je sais pas, un riche touriste qui veut venir, etc., il va par exemple payer un fee mensuel pour accéder à la base de données, bah, cet argent va être distribué au curateur et au scout. Très simple. Je veux dire, c'est bête et méchant, c'est très très simple. Et leur thèse, c'est de se dire, bah, la curation, ça a un prix. Et la qualité des gens qui font de la curation, ça, elle coûte quelque chose, et donc on va créer une espèce de rétribution économique à travers tous les acteurs et tous les agents du système de curation pour que tout le monde retrouve son compte. Reddit est un peu un énorme curate DAO. C'est de la curation d'informations sur plein de subreddits. Et les gens upvotent, ne votent pas, les gens gagnent des karmas, donc quelque chose qui donne un signal qu'ils sont des bons curateurs ou des bons scouts, ainsi de suite. Voilà. Alors, ils ont levé 6,8 millions. Je ne sais pas c'est quoi la suite. Alors, j'ai pas leur deck, donc je ne sais pas c'est quoi leur vision finale qu'ils ont réussi à vendre aux investisseurs. Mais en tout cas, c'est intéressant comme modèle. Et c'est intéressant qu'un modèle comme ça arrive à lever autant d'argent.
Ouais.
et que enfin, je trouve ça intéressant, quoi.
Aujourd'hui, c'est quoi le type de database qu'il y a?
Si tu vas sur le site, tout en bas, tu as les exemples de database, tu as des databases. Alors, je pense que c'est des exemples qu'ils ont montrés, mais qui ne sont pas non plus. Je pense pas que ça soit genre les exemples les plus flagrants et les plus obvious. Ils ont une database de profils de développeurs, tu vois. Ils ont une database d'applications Web3. Bon, je vois pas trop, tu vois, je vois pas trop le but là-dessus. Après, en dessous, ils donnent un peu les exemples de choses que tu pourrais curate. Tu peux curate de la musique, tu peux curate des NFT, tu peux curate plein de choses, en fait. Tu vois, en fait, tu peux curate littéralement tout ce qu'il y a sur Reddit. Tu vas sur Reddit, tu prends tous les subreddits, bah, c'est un use case pour curer des.
Je me rappelle plus du nom de l'épisode où je te parlais d'un protocole où tu pouvais request de la donnée et qu'il y avait un système de pénalité si jamais tu uploadais de la mauvaise donnée ou si jamais tu, en tant que demandeur, tu payais pas ton mec. Comment ça s'appelait encore ce truc?
Sais plus.
C'est
Mais ça me dit quelque chose, mais je sais plus.
Pour moi, si vous cherchez des idées en crypto ou en Web3, je mettrai le lien. Très bien dans la description. Partie de ce modèle-là. Grosso modo, cette décentralisation de l'accès à l'information, surtout quand vous recherchez une information spécifique, c'est le futur. Donc là, du coup, c'est des mecs qui ont. Tu arrives sur la plateforme, tu veux savoir quelque chose, tu poses la question et il y a un scout qui va répondre pour toi, un validateur qui va vérifier que la donnée tient la route. Et puis ensuite, tu reçois la donnée et toi, tu payes. C'est ça, grosso modo.
Ok.
Non, dans ton cas, à toi.
Ah,
J'ai pas trouvé le site, c'est Curator avec un K.
ouais. Curator. Non, c'est Curate DAO. Il n'y a pas de Curator. C'est pas de R à
Ah.
la fin de Curate
Ok,
DAO.
d'accord.
Ouais, c'est pas. Ouais, c'est plutôt toi, t'es Curator. Tu dis que. En fait, tu setup. Tu peux, si tu veux, tu peux créer une liste, une DB. Tu dis, voilà, la DB, elle va
Ouais,
être
il faut
nommée
pas
comme ça.
forcément une
L'objectif,
demande.
c'est ça.
Ok.
Non, non, non. Et derrière, le scout, lui, bah, il envoie de la donnée, quelqu'un vérifie, et puis cette DB va être consommée par quelqu'un d'autre, un viewer, et d'une façon ou d'une autre, soit il paye pour accéder à la DB, soit le curator met des ads sur la DB, donc c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, et l'argent va être distribué au scout et au curator.
Je pense qu'il y a une partie de leur levée de fonds qui va venir payer leur site web qui a l'air d'avoir été bien fait. Ok, d'accord. Et tu peux te connecter avec un wallet, etc. Classique.
Exactement.
Cool. Et tu peux mint une database. Alors ça, ah oui, ça c'est quand tu veux la mettre. Ok, d'accord.
Ouais, je suppose,
Ok.
ouais, c'est ça.
Très bien. Bon, bah, c'était une belle trouille. Tu
C'est
as trouvé ça où sur
intéressant.
Twitter?
Ouais, j'ai vu la levée de sur son Twitter, j'ai regardé, le nom m'intriguait, j'ai regardé et je me suis dit, putain, c'est bizarre ce truc. Je trouvais ça bizarre, je me suis dit, putain, le modèle de curation, Après, je peux comprendre, par exemple, certains cas spécifiques où l'information est cruciale et où la bonne qualité de l'information peut être cruciale. Par exemple, en finance, peut-être, tu vois. Peut-être que c'est des fonds d'investissement qui sont prêts à payer très cher pour avoir certaines informations très spécifiques de qualité. Et je sais pas, tu vois, mais j'essaie de trouver des use cases où en fait, c'est obvious que, en fait, la qualité, qu'il faut une très, très grande qualité de curation et de vérification, quoi. Mais
Oui, moi j'ai de l'alpha sur ce sujet-là, mais j'en parlerai quand ça sera sorti. Mais une belle team
Alpha,
qui travaille
alpha.
sur ce genre de sur un protocole qui régit ce genre de la valeur de l'information, enfin qui donne une valeur à l'information. Et c'est beaucoup, à mon avis, ce sera beaucoup plus complexe et tech que là. Ça a l'air relativement simple en fait. C'est du web 2 sur la blockchain, quoi.
Il n'y a
Je
pas
veux
tant
dire,
d'informations que ça non plus sur Curator.
tu peux pas valoriser autrement que juste a priori, quoi. Il n'y a pas des mécanismes qui permettent de valoriser en temps réel l'information. Il n'y a pas différents
Je sais pas, comme
systèmes
je
de
t'ai dit,
billing, enfin, tu
la
vois.
doc est légère et la doc est légère. Donc je ne pourrais pas te dire. Il y a un white paper si tu veux te le taper. Je ne me suis pas tapé le white paper, mais il y a un white paper. Donc si tu veux te le taper.
Je me le
Avec
tape.
plaisir.
Bon, ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va dire à l'audience? T'as encore un sujet? Tu veux faire une
Non,
radio
j'ai plus de
libre?
sujet.
Non?
Non, non,
Ça
non,
va?
non, je devrais y aller moi, mais qu'est-ce qu'on
Ok.
dit? On dit aller sur notre TikTok, liker toutes nos vidéos, regarde toutes nos vidéos du bout jusqu'à la du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous à TikTok, abonnez-vous à nos Twitter, lâchez un petit commentaire sur YouTube, 5 étoiles sur l'Apple Podcast, ça fait beaucoup de choses, je sais. Mais faites-le en fonction de la plateforme respective sur laquelle vous êtes. Comme ça ne ferait qu'une seule action et une petite cloche sur Spotify.
Et des étoiles sur Spotify aussi, apparemment. On peut.
Et apparemment aussi les états sur Spotify. Faites tout ce
Ouais.
qu'il y a à faire pour que les gens
Voilà.
connaissent un maximum de notre
Soutenez-nous, les gars,
podcast.
c'est important.
Et partagez l'épisode si vous avez bien aimé à un groupe de potes. Vous avez tous un petit WhatsApp groupé, un petit Discord, un petit groupe Messenger. Bah, partagez l'épisode et dites ouais, ces deux mecs-là, ils ont l'air cool. N'hésitez pas à aller les écouter.
C'était IHIQ.
Bon.
Selon Praxis. Bon, allez.
Allez.
Ciao, mec, à la semaine
Ciao,
prochaine.
ciao. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.